Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. En février dernier, les trois pays les plus touchés par le virus Ebola, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée, s'étaient engagés à éradiquer le virus d'ici le 15 avril. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. Alors certes, le pic épidémique semble être passé, mais le virus continue ses ravages. Il y a plus de 10 500 morts pour quelques 25 000 cas identifiés. Un bilan d'ailleurs nettement sous-évalué de l'aveu même de l'Organisation mondiale de la santé. Alors cette épidémie a d'ailleurs montré les carences de l'OMS qui a mis du temps à réagir. L'OMS a reconnu des manquements graves dans sa gestion de l'épidémie et a d'ailleurs promis des réformes. Alors, hôpitaux surchargés, système de santé obsolète, perte de l'équipe, des équipes soignantes locales, défiance de la population. Comment venir à bout de cette épidémie? L'aide internationale est-elle suffisante? Quelles sont les avancées dans les recherches sur les traitements et les vaccins? C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, le professeur Yazdan Pana, qui est chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris. Si vous avez envie de lui poser des questions ou d'apporter un témoignage, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Alain Epelboin, qui est médecin anthropologue, chercheur au CNRS, et Elisabeth Maria Faga, qui est coordinatrice d'urgence Ebola pour MSF en Guinée. Professeur Yazdan Pana, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour répondre à mes questions, à celles des auditeurs qui sont nombreuses. Je l'ai dit en introduction, les trois pays, Sierra Leone, Libéria et Guinée, s'étaient engagés à éradiquer le virus. Ce n'est pas le cas. On en est où? Quels sont les chiffres aujourd'hui? Il n'y a plus de cas, par contre, au Libéria sur les dernières semaines.
Oui, effectivement, bonjour. Tout d'abord, effectivement, le pays probablement où la situation est le mieux contrôlée, c'est le Libéria, où au cours des trois dernières semaines, il n'y a pas eu de cas. Il y a eu un seul cas il y a quelques semaines, mais je pense que le pays est en train de sortir de l'épidémie. Il faut 2 fois 21 jours pour 100 cas pour sortir de l'épidémie, 42 jours.
Et pourquoi? Alors, on va l'expliquer tout de suite. 21 jours, parce que d'abord, c'est le temps d'incubation, c'est ça?
Voilà, en fait, c'est la borne haute de la durée d'incubation. La durée d'incubation, c'est de l'ordre de 11 jours, mais ça peut aller de quelques jours à 21 jours. Donc, si on est 2 fois 21 jours 100 cas, 2 fois la durée d'incubation haute, en gros, on sort
on est sûr d'être sorti de
zone d'épidémie. Ça veut dire qu'il n'y a pas des cas qui sont asymptomatiques encore, mais qui portent
le virus
qui peut se déclarer. Donc il faut attendre 2 fois pour sortir. Donc le Libéria est en phase, c'est pas encore fait, mais je pense que c'est en bonne voie. Et en Sierra Leone et Guinée, la situation est beaucoup mieux, mais on a plus de cas, moins d'une trentaine de cas, par exemple en Guinée, un petit peu moins en Sierra Leone. Donc on est...
On est sur la bonne voie. Simplement, on sait bien que dans cette épidémie, il y a eu des moments mieux et puis des remontées. On n'est pas encore à bout, c'est ça?
Oui, on n'est pas. Alors, il y a la situation au mois d'août, septembre, octobre, où la situation était assez catastrophique. Et après, il faut savoir qu'il suffit qu'il y ait un cas qui arrive avec exposition d'autres personnes et vous avez des micro-épidémies. Donc je pense que maintenant on arrive à contrôler à peu près, mais on a toujours des micro-foyers qui font qu'on a quelques cas et maintenant l'objectif c'est d'essayer d'éradiquer ce que le Libéria est en train de réussir.
On reparlera un peu longuement de la situation en Guinée, entre autres avec MSF tout à l'heure après les informations. On va parler avec vous des essais thérapeutiques qui ont lieu en ce moment. D'abord les essais sur les médicaments et après les essais sur le vaccin. Vous coordonnez finalement la recherche, chercher à améliorer cette coordination. On va commencer par le favipiravir, qui est un médicament antiviral produit par un laboratoire japonais, qui a été utilisé au départ contre la grippe et qui s'avère peut-être efficace contre Ebola. On en est où de cet essai-là?
Donc effectivement, la France, en collaboration avec donc le firme japonais, avec un financement européen, et avec, bien sûr, les autorités guinéennes, a mis en place un essai clinique pour évaluer l'efficacité de favipiravir dans l'Ebola. Cet essai clinique a commencé le 17 décembre exactement, en Guinée, en zone forestière. Actuellement, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été mises sous traitement. Bien sûr, c'est l'ensemble des personnes ont le traitement. C'est un traitement qu'on connaissait parce qu'il était effectivement utilisé contre la grippe dans les pays du Nord, au Japon en particulier. On connaissait la toxicité, même si là, on utilise des posologies plus importantes. Donc, on a prescrit ce médicament chez une centaine de personnes en Guinée. Il semblerait que chez des patients qui ont une charge virale faible, pas beaucoup de virus, il y ait peut-être une efficacité de cette molécule, mais on peut pas le confirmer à l'état actuel. L'essai se poursuit pour essayer d'avoir plus de personnes. Et par ailleurs, ce qui est aussi très important, c'est que cette première phase a montré qu'il n'y avait pas de toxicité de cette molécule. Il y a peut-être une efficacité dans une catégorie de patients, mais il n'y a pas de toxicité.
C'est ce qui est important aussi. Donc l'essai se poursuit, on verra les résultats au fur et à mesure. Ça, c'est un premier essai clinique. Il y a un autre essai clinique sur le traitement par plasma de volontaires adultes guéris, c'est-à-dire en fait qu'on comprenne bien, c'est du coup, il y a quoi, des anticorps qui se sont développés dans le sang des personnes guéris qui pourraient être intéressants pour des personnes malades, c'est ça?
Voilà, donc c'est un essai qui est donc principalement à Conakry, à Donka, où effectivement on évalue l'efficacité de plasma de convalescent. Alors c'est quoi le plasma de convalescent? C'est effectivement les patients qui ont été malades, qui sont guéris. A priori ils sont guéris parce qu'ils ont développé des anticorps contre la maladie. L'idée c'est donc de prendre le sang de ces patients-là, de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres maladies, comme les hépatites, etc. Et après, de transfuser ce sang-là à des patients qui sont activement malades pour essayer d'utiliser les anticorps des malades qui ont guéri pour des malades qui sont malades. Voilà. Donc c'est actuellement en cours au centre de Donka, d'après ce que je sais, donc avec Médecins Sans Frontières, avec des collègues belges, et il y a plus d'une centaine de personnes qui ont reçu ce traitement après on va regarder, évaluer l'efficacité.
On n'a pas encore les premiers résultats là, pour le coup. Contrairement au favipiravir, on n'a pas encore les premiers résultats. Dernier traitement dont on a beaucoup parlé à un moment, c'est le ZMAP, puisque quelques Occidentaux ont été traités avec ça. On en est où alors, d'essais thérapeutiques sur le ZMAP?
Alors effectivement, le ZMAP, il y a eu quelques personnes qui ont été rapatriées qui ont reçu du ZMAP. Il y a aussi 3 personnes libériennes au début qui ont reçu du ZMAP. Donc c'est des anticorps monoclonaux. C'est un peu le même principe que le sérum de convalescence, c'est des anticorps, mais sauf que là, c'est pas les malades qui donnent, mais c'est construit, en gros, pour dire les choses simplement. Et donc le problème qu'on avait avec les ZMAP, c'est que la production était assez compliquée, donc on n'avait pas assez de doses.
Donc, faire les essais justement.
Les traitements. Donc les traitements, on a montré que c'était efficace chez les primates. Par contre, chez l'homme, il y a une dizaine de patients qui l'ont reçu, mais on peut pas savoir si c'est efficace ou pas. Il semble que ça soit efficace. Donc l'idée maintenant, c'est d'essayer de l'utiliser en zone d'épidémie auprès d'une plus grande nombre de personnes. Et il semble maintenant qu'il y ait des doses disponibles, et bientôt il va y avoir normalement un essai clinique qui va démarrer pour utiliser les filles.
Aussi en Guinée, cet essai thérapeutique.
Normalement aussi en Guinée.
Aussi en Guinée, cet essai thérapeutique. On va parler justement des vaccins. On a Luc qui nous appelle de Conakry en Guinée. Luc, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à Priorité Santé et à tous les fidèles de RSI.
Oui, je crois que vous êtes médecin, Luc, hein, c'est ça?
Oui.
On vous écoute.
Oui, je pense que la question que je voulais poser, d'abord merci pour cette émission qui est consacrée à ce problème.
Alors, Luc, vous savez, les lignes téléphoniques ne sont pas toujours très bonnes, alors parlez vraiment bien près du téléphone pour qu'on vous entende, c'est important.
Oui, alors, d'accord. Vous m'entendez maintenant?
Oui, parlez bien près du téléphone, on vous écoute.
Ok, d'accord. Donc, je suis Luc Sidimou. Je coordonne un projet de sensibilisation de la société civile des pays africains. Nous sommes actuellement à l'étape guinéenne de notre tournée. Alors, par rapport à ce problème, j'ai suivi un peu l'intervention. Je voulais savoir, est-ce qu'au moment où nous parlons, sur ce problème d'évolution des différents vaccins qui sont en cours de tests, est-ce que on peut vraiment rassurer les populations? Parce que je pense que dans cette affaire, je ne veux pas qu'on commette l'erreur qu'on a commise dans la lutte contre le sida, dans la même situation d'Ebola, parce que on croit que le langage est peut-être que professionnel n'appartient qu'aux professionnels de santé. Est-ce que les populations qui nous écoutent à travers cette émission de ces trois pays, de la Guinée notamment, est-ce qu'ils peuvent être rassurés que
l'évolution
termes de vaccins est en train d'aller en bonne voie, et que vraiment quelque chose de concret sera éventuellement être fait pour eux.
Luc, vous posez une question qui est absolument essentielle. On vient de parler des essais thérapeutiques sur les médicaments. Là, on est sur des patients malades, donc avec une acceptation qu'on comprend plus importante, parce que là, c'est vraiment une question de vie et de mort. La question du vaccin est un peu plus compliquée. Expliquez-nous où est-ce qu'on en est d'abord des essais sur le vaccin et qu'est-ce qu'on fait pour bien communiquer avec la population. Alors, on en est où de ces essais d'abord?
Alors, actuellement, bonjour Luc, tout d'abord, actuellement, il y a deux vaccins qui sont à des stades plus avancés de développement. Donc il y a un vaccin adénovirus qui est développé par GSK et un autre vaccin qu'on appelle le RVSV.
Ils ont toujours des noms très compliqués.
Voilà, peu importe les noms, en tout cas il y a deux vaccins à stades plus avancés. Alors, ces vaccins, ils ont été évalués dans des essais cliniques de phase 1 pour justement évaluer tout d'abord leur tolérance et d'autre part pour voir si chez les personnes saines, est-ce qu'il y a développement des anticorps contre le virus Ebola quand on fait ce vaccin?
C'est ça. Et quand vous parlez de tolérance, c'est vraiment la question de voir s'il y a des effets secondaires, s'il y a des risques sur ces vaccins. C'est vraiment
voilà,
ça.
Voilà, oui.
Et ça, ces études-là, ces essais-là ont été menés principalement dans les pays occidentaux et dans les pays limitrophes, mais pas pour l'instant dans les pays concernés.
Non. Donc, il y a une étude qui vient d'être publiée dans le fameux New England Journal of Medicine début avril, notamment sur le vaccin RVSV, évaluation de tolérance de ce vaccin. Donc c'était fait en Suisse, en Allemagne, à Hambourg, mais aussi dans les pays limitrophes pour évaluer la tolérance. Et là, on a vu qu'il n'y avait pas de problème majeur de tolérance. Et d'autre part, pour voir s'il y avait production des anticorps. Et il y a production d'anticorps. Mais ça ne veut pas dire que ça marche. Pour essayer d'évaluer l'efficacité, il faut le faire en zone d'épidémie, à plus grande échelle. Et ces études-là, maintenant, ont commencé, notamment en Guinée, auprès des populations exposées. Ça veut dire les gens qui ont été exposés aux patients. Et aussi
donc le personnel soignant,
le personnel soignant qui est aussi une population qui risque d'être exposée aux patients.
Et d'ailleurs, payer d'ailleurs un lourd tribut à cette épidémie.
Voilà, exactement. 15% de la mortalité était enregistrée chez le personnel soignant. Donc, on est assuré. Pour revenir à la question de Luc, on est rassuré par rapport à la tolérance, compte tenu du fait qu'il y a des études de phase 1 qui évaluent la tolérance, et notamment il y a beaucoup de soignants des pays du Nord, à Hambourg ou à Genève, qui ont participé. Donc il y a pas eu d'effet secondaire majeur à ce vaccin. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'à plus grande échelle, quand on va inclure un nombre beaucoup plus important, qu'il y aura pas d'effet secondaire. Mais en tout cas, l'idée d'un vaccin...
Ça, on peut voir apparaître des complications après, à terme.
C'est toujours risque-bénéfice, quoi. Ouais. Ça veut dire que le bénéfice sur plus grand nombre sera plus important qu'éventuellement les effets secondaires sur un certain nombre faible de personnes.
Et ça, alors on va justement peut-être en parler avec le docteur Alain Epelboin, mais ça, on essaye de bien expliquer à la population avant de lancer ces essais sur le vaccin?
Alors, vous savez, quand je peux vous dire que quand on a fait les sites de favipiravir, En Guinée forestière, notamment à Guéquédou, nos équipes ont fait un travail énorme pendant des semaines le lancement de l'essai pour expliquer à la population. C'est extrêmement important parce que les gens ne comprennent pas. Et pour le vaccin, c'est encore
plus important
parce que les patients qui se font vacciner, ils vont bien. Donc ils le font. Alors je connais pas les détails parce que c'est l'OMS, le NIH, etc. Je connais pas le détail, mais ce travail-là, en tout cas, c'est fondamental.
Absolument fondamental. Merci Luc pour cette question. On a au téléphone le docteur Alain Epelboin. Docteur Epelboin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes médecin anthropologue, chercheur au CNRS. Vous êtes en ce moment justement en Guinée. J'ai envie de vous poser, parce qu'on est en train de parler de ces essais vaccinaux, est-ce que vous avez justement, vous, l'impression que la population est suffisamment informée sur ces essais vaccinaux, ou est-ce qu'il y a des rumeurs qui courent là-dessus ?
Non, je n'ai pas de connaissances de rumeurs spécifiques, mais vous savez, que ce soit les essais vaccinaux, les suivis de contact, la recherche de malades, les enterrements sécurisés, tout est à recommencer à chaque fois, chaque famille, et il faut tout reprendre à zéro. Et puis, comme d'habitude, il faut commencer par écouter les gens, ce qui n'est pas toujours fait.
Oui. Le 16 septembre 2014, huit membres d'une équipe de campagne de sensibilisation à Ebola, dont des responsables administratifs et de santé, ainsi que trois employés des médias, avaient été tués par des habitants qui niaient la réalité du virus, criaient d'ailleurs un complot des Blancs. Le procès se déroule en ce moment. La peine de mort a d'ailleurs été requise contre 15 des 26 prévenus à ce procès. C'est peut-être une réaction d'abord par rapport à cette demande de peine de mort. C'est probablement pas ça qui va rétablir un esprit de confiance.
Là, écoutez, en tant qu'étranger au pays, je dirais que la loi va suivre son cours et que je n'ai pas à dire ce qu'il y a à se faire. Ça a été une affaire épouvantable, où sous la pression des autorités internationales, nationales, une équipe a été faire de la sensibilisation avec un travail mal préparé, s'appuyant sur des interlocuteurs locaux non pertinents et sans avoir véritablement touché, sensibilisé, repéré les forces vives de la société civile de ce village. Et ça a provoqué ce drame absolument épouvantable.
Mais justement, à quoi sont dues ces incompréhensions ?
Oh, ces incompréhensions, vous savez, d'abord, si j'ose dire, il y a plusieurs couches d'analyse. Il y a une première couche d'analyse qui est que, de même que dans l'histoire de l'humanité, cette épidémie mortelle suscite terreur, recherche de boucs émissaires, des usages sociopolitiques de la maladie, et ça, c'est des phénomènes de panique universaux. Ensuite, vous avez un fonds structurel dans des pays extrêmement pauvres, avec des santé désorganisées, encore aggravées par la crise Ebola qui a décimé des équipes. Ben, comme d'habitude, de manque de confiance dans les autorités, de conflits qui n'ont pas été résolus, de revendications insatisfaites, voire d'anciennes oppressions ou répressions. Donc en fait, on se retrouve toujours avec ça. Et puis, il y a les facteurs, je dirais, plus culturels, plus spécifiques. C'est que les consignes données cassent l'humanisation de la société, c'est-à-dire ces soins qu'on décrit aux malades tellement contagieux, mais c'est en même temps ce qui fait l'efficacité de cette médecine familiale, toucher le corps, l'embrasser, lui donner à manger, le masser. Et puis les rites funéraires, ben là on est en face des croyances de sociétés qui pensent que pour que les individus puissent gagner l'au-delà, que ce soit un au-delà musulman ou un au-delà chrétien ou un au-delà de tradition des religions africaines, il faut que le mort soit apaisé, il ne faut pas qu'il y ait une mal mort, il faut qu'il soit enterré sous les conventions, sinon il reviendra en télévivant. Donc vous voyez, il y a à la fois des particularités anthropologiques, spécifiques, mais on est dans des problèmes de fond. Et vous avez vu les réactions de panique, de xénophobie qui ont été provoquées dans le monde entier, où il ne faisait pas bon être noir quand on voyageait à certains moments.
Oui, des réactions qui sont universelles face à des épidémies. Docteur Alain Epelboin, vous restez avec nous parce que j'ai encore quelques questions à vous poser. Entre autres, que vous nous expliquiez quel est finalement le rôle des anthropologues et qu'est-ce que vous faites, vous, pour que la population comprenne mieux les précautions à prendre face à une épidémie. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations. Un téléphone, si vous avez envie de participer, le 33 1 84 22 75 75. Thank you.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous faisons un point sur l'épidémie d'Ebola dans les trois pays les plus touchés, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. On en parle avec le professeur Yass Dampana, qui est chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris. Et si vous avez envie de participer, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou bien sûr les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Les informations, on était en ligne avec le docteur Alain Épelleboin, qui est médecin anthropologue, chercheur au CNRS. Docteur Alain Épelleboin, vous êtes en ce moment en Guinée-Conakry. Vous nous avez un peu expliqué à quoi sont dues les incompréhensions, comment réagit la population en Guinée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail? Qu'est-ce qu'un médecin anthropologue comme vous, mais comme d'autres équipes qui sont là sur place, peuvent faire justement pour que les populations comprennent mieux cette épidémie?
Nous, les anthropologues, nous sommes des traducteurs culturels. Et vous voyez, actuellement, vous avez, je parle pour la Guinée, que je connais mieux que les pays anglophones, vous avez plusieurs équipes d'anthropologues, et actuellement, il y a l'équipe du professeur Niang, une équipe malienne, guinéenne, enfin essentiellement africaine. Eux, ils interviennent en s'installant dans les quartiers, en gagnant la confiance. Ce qui n'est pas possible pour des anthropologues étrangers. Moi, j'ai un travail où, par exemple, là, je vais partir dans un quartier avec l'équipe de surveillance parce qu'il y a une jeune femme qui est revenue dans une maison collective avec différentes locations, et il y a un problème de résistance des habitants de la même maison qui reprochent à cette femme de ne pas leur avoir dit qu'elle avait été contact, qu'elle risquait d'être Ebola, et un suivi de contact. Et par exemple, en l'occurrence, le travail, ça va être d'accompagner les équipes, faire une formation de situation, de dialoguer avec la population, trouver des solutions. Dans certains cas, il y a eu une histoire très grave l'année dernière où une femme enceinte était décédée avec l'enfant dans le ventre, et ma collègue Julienne Anoko a résolu le problème de façon classique pour les anthropologues, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des interdits qui sont mis en place dans une société, on peut toujours trouver les processus de contournement de cet interdit. Donc si je résumais, à la fois travailler sur les représentations, l'explication des maladies, et puis un travail entre guillemets tout simple, entre guillemets de délégué syndical, c'est-à-dire d'être porteur de la parole de ceux qui ne s'expriment pas, faire remonter des revendications, faire remonter des critiques. Voilà très brièvement ce qu'est le travail des différentes équipes d'anthropologues.
C'est ça, et faire
sans oublier les équipes qui ont également suivi les essais thérapeutiques, les équipes de Nouvelle-Brunswick, le Marcy et FAI.
La ligne se dégrade beaucoup, hein, docteur Épelleboin, mais j'ai quand même une question encore à vous poser. Est-ce que vous trouvez que la situation reste tendue là avec les populations locales ou la compréhension s'améliore?
Il y a une notion d'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire les cas de résistance qui sont extrêmement dramatiques, comme il était dit tout à l'heure, qui recréent des micro-foyers avec des gens qui fuient, et qui fait que ces micro-foyers à distance, c'est-à-dire par exemple là aujourd'hui, je crois qu'on a appris qu'il y a un cas qui a échappé à Conakry, qui s'est réfugié à Massinta, à l'autre bout du pays. Donc c'est ça la difficulté à contrôler. Et puis quand vous avez un cas dans un quartier, si la famille est compliante, éventuellement vous allez avoir des résistances du voisinage qui ont peur d'être stigmatisées. Donc c'est un travail. À chaque micro-foyer, à chaque événement, tout est à recommencer à zéro. Mais ça, on le sait en éducation sanitaire. Mmh. C'est-à-dire que les gens ont les notions dans la tête, mais c'est lorsqu'ils sont en situation qu'il faut renouveler le discours, non pas en réimposant un discours, mais en repartant de leurs connaissances et de leurs discours.
Donc expliquer, réexpliquer, prendre le temps, c'est ça qui vous paraît...
Réexpliquer en permanence. Mmh. Et la logique humanitaire veut que, autant que faire possible, d'éviter l'usage de la force de l'ordre, éviter des quarantaines répressives, et trouver des façons. Vous savez, très souvent, les gens ont besoin d'être considérés, qu'on les écoute, qu'on leur parle, qu'on ne vienne pas brutalement. Et déjà, la qualité psychologique individuelle des personnels sur le terrain est absolument déterminante pour gagner la confiance des personnes.
Merci beaucoup, hein, docteur Alain Épelleboin. Je rappelle donc que vous êtes médecin, anthropologue et chercheur au CNRS. On a au téléphone Elisabetta Maria Faga, qui est coordinatrice d'urgence Ebola pour MSF, pour Médecins sans frontières en Guinée. Guinée. Elisabetta Maria Faga, bonjour.
Bonjour à vous.
Selon vous, pourquoi l'épidémie persiste-t-elle en Guinée? Pourquoi on n'arrive pas à faire mieux, même si on l'a bien vu en début d'émission, il y a quand même une grosse baisse des cas ces dernières semaines?
L'épidémie, c'est toujours imprévisible. Et donc, le fait que ça continue, et ça fait partie de les récurrences épidémiologiques. On a noté, bien sûr, une base de cas. Et donc, par exemple, je dirais qu'hier soir, il y avait une totale de 20 cas confirmés sur le pays et 10 suspects hospitalisés en total. Mmh. Voilà.
L'aide internationale aujourd'hui vous paraît-elle suffisante?
Ah oui, l'intervention des acteurs, bien sûr, il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents, parfois voire trop, et que donc ça crée un peu des problèmes dans la coordination des activités.
Il y a un problème
qui... La chose importante, ça serait que les activités soient bien coordonnées et bien ciblées, donc pratiques.
Il y a un problème qui persiste, on le sent bien en Guinée en ce moment, c'est la question de la surveillance des contacts. Comment justement améliorer cette surveillance?
C'est toujours une question d'organisation d'ailleurs, et donc de faire, pour continuer, il faut juste être présent et d'être vite à répondre dans le suivi.
Oui, alors on va peut-être expliquer aussi pourquoi. La fréquentation des services de santé, quand j'étais là au mois de septembre, avait diminué de moitié. Est-ce qu'aujourd'hui, les Guinéens retournent consulter?
Pas encore complètement, mais oui, mais ils retournent un peu dans les centres. Mais les centres, ils ont besoin d'être renforcés et les gens surtout doivent être rassurés pour retourner dans les centres de santé, dans les hôpitaux.
Merci beaucoup, Elisabetta Maria Faga. Je rappelle que vous êtes coordinatrice d'urgence Ebola pour MSF en Guinée.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, on fait un point sur l'épidémie d'Ebola avec le professeur Yass Dampana, qui est chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat-Claude Bernard. On était en train de parler de cette question du suivi des contacts. Professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi c'est ça qui permet d'arriver au bout de l'épidémie?
Oui, le suivi des contacts est extrêmement important et probablement c'est ce qui a été très bien fait au Libéria. Et c'est ça qui différencie le fait qu'ils ont réussi à... Alors c'est très important parce que quand vous avez un patient qui devient malade, les contacts proches peuvent être asymptomatiques.
C'est-à-dire qu'ils sont pas encore malades.
Ils sont pas encore malades, mais ils sont en train de développer la maladie. Donc si ces personnes-là, on arrive à les isoler rapidement, quand ils vont développer la maladie, ils sont en isolement, en quarantaine, donc ils transmettent plus la maladie. Donc on arrête la transmission. Par contre, si...
Excusez-moi, je vous interromps. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi pour la personne en question, c'est que du coup, comme sa température va être surveillée matin et soir, il va être pris en charge au tout début. Or, c'est voilà. Ça qui permet une...
Donc effectivement, c'est bien pour les autres et c'est bien pour lui-même parce que une personne qui a diagnostiqué rapidement, malgré tout, au moins, même les mesures symptomatiques, on peut les mettre en place plus rapidement, avant l'étape de complication. Peut-être que maintenant, avec le favipiravir, on peut lui donner rapidement et que ça, c'est aussi peut-être mieux. Donc, effectivement, quand quelqu'un est diagnostiqué très rapidement, ce qui n'est possible que si on met en place une surveillance des contacts, c'est bien pour lui. Et c'est bien pour la population, parce que du coup, comme il est isolé, il transmet pas la maladie.
C'est important, justement. Est-ce qu'on peut rappeler les modes de contamination d'Ebola?
Alors, les modes de contamination, c'est surtout le contact, donc la transmission avec... transmission à travers tout ce qui est sang, tout l'ensemble des sécrétions humaines peuvent être à l'origine de transmission de la sueur, la salive, surtout donc le sang, les urines, les selles, etc. A priori, il n'y aurait pas de transmission respiratoire par l'air, c'est contact. Donc toucher, c'est surtout ça. D'où l'importance de se laver les mains fréquemment.
Les symptômes, on parle beaucoup de la fièvre, mais il n'y a pas que ça.
En fait, l'Ebola a été connu comme une fièvre hémorragique, mais en fait, c'est pas une fièvre hémorragique. D'ailleurs, on a changé maintenant, on n'appelle plus fièvre hémorragique, c'est une gastro-entérite. Donc vous avez pendant 3 jours fièvre avec une symptomatologie pseudo-grippale, ça veut dire des maux de tête, des frissons,
des
douleurs dans les articulations, des courbatures, et 3 jours après, vous avez des diarrhées, des vomissements. C'est ça. Il y a moins de 15% des malades qui ont des signes d'hémorragie. Donc c'est pas une fièvre hémorragique, c'est une gastro-entérite. Et au départ, une des raisons pour lesquelles on était en retard pour diagnostiquer l'Ebola, c'est que en Afrique de l'Ouest, contrairement à l'Afrique centrale, on connaissait pas l'Ebola, on pensait que c'était une gastro-entérite.
Comment se fait le diagnostic?
Donc une fois qu'on a pensé au diagnostic, il faut faire des tests.
Une prise de sang.
Et en gros, on fait un test virologique qui nous permet de faire le diagnostic. Il y a des tests rapides. Pour l'instant, on met quand même 12 à 24 heures avant de faire le diagnostic.
Et justement, on en est où du développement de ces tests rapides?
Ils sont en cours d'évaluation, mais il n'y en a pas un qui a été pour le moment commercialisé.
C'est ça, hein, pour l'instant, il n'y en a pas un qui s'avère suffisamment efficace, et ce serait intéressant pour avoir justement le résultat. Mais
diagnostic rapide, isolement plus rapide, ne pas isoler ceux qui n'ont pas besoin d'être isolés, parce qu'il y a d'autres raisons de faire de la fièvre, donc c'est très important ces tests-là.
On a parlé longuement des essais thérapeutiques, des essais de vaccins qui ont lieu en ce moment, mais il faut quand même dire du traitement parce qu'on a longtemps dit, il n'y a pas de traitement d'Ebola. Et c'était une erreur, en fait, de dire ça. Il n'y a pas de traitement spécifique, mais bien sûr qu'on soigne quand même les malades. Qu'est-ce qu'on leur fait, justement?
Donc, effectivement, le premier traitement d'Ebola, c'est le traitement symptomatique. Les patients qui ont atteint d'Ebola, tout d'abord, ils ont des diarrhées, des vomissements très importants. On sait que les patients qui ont été hospitalisés dans le Nord, hein, on sait qu'ils peuvent avoir jusqu'à 10 à 15 litres de diarrhée, de vomissement. Alors imaginez quand vous avez 10 à 15 litres. Si on vous donne pas à boire ou si on vous perfuse pas, ben voilà, vous allez mourir, pas de l'Ebola,
mais des cancers.
Voilà. Donc la première chose, c'est de passer des liquides, de passer de l'eau, du sodium, du potassium. D'autre part, comme il y a une diarrhée, il y a beaucoup de bactériémie, de sepsis, donc il faut mettre des antibiotiques. Donc tout ça, ça permet quand même bien de lutter contre les conséquences de l'Ebola.
C'est important. Alors les auditeurs sont nombreux à appeler pour vous poser des questions. On a Mahmoud qui nous appelle de Guinée. Mahmoud, bonjour.
Bonjour, madame.
On vous écoute, mais on m'a dit que la ligne téléphonique n'était pas très bonne, donc parlez bien fort pour qu'on vous entende. On vous écoute, Mahmoud.
Et bonjour, docteur. Et par rapport à mon intervention ce matin, je voulais préciser que le dispositif mis en place pour la lutte contre Ebola, il faut se réduire par rapport à la durée d'intervention. Avant, quand il y a un cas, et l'isolement du cas, ça prenait assez de temps. Et actuellement, en Guinée, dès que vous signalez, avec la ligne 115, on a tout de suite les intervenants qui interviennent pour isoler le cas. Mais ce qui est difficile aussi à comprendre, c'est les réticences. Dans la sensibilisation, nous pensons que sur notre programme, le PDLG, le programme de développement local en Guinée, et on essaie actuellement d'utiliser l'approche communautaire. Qu'est-ce que cela signifie? C'est d'amener les communautés actuellement à s'intégrer dans le dispositif d'intervention. En fait, de ne pas penser que ceux qui interviennent sont des étrangers qui viennent, mais que la communauté soit elle-même actrice du processus. Et de ce coup, on est en train de faire un bilan. L'épidémie a fait plus d'un an. Les communautés ont une image de l'épidémie. Donc, il ne faut pas revenir encore, reprendre les choses comme si tout est nouveau. Mais c'est de les impliquer dans le processus et les amener à identifier les problèmes qui nous emmerdent actuellement dans l'intervention. Et elles aussi, elles vont nous dire quels sont les rôles attendus et quels sont les rôles qu'elles vont jouer. Ça, c'est une première dimension. Et l'autre dimension, c'est la construction en termes de renforcement de nos structures sanitaires. On a moins d'interventions sur le dur. C'est-à-dire les bâtiments ou les infrastructures sanitaires n'ont pas reçu d'appui. On a focalisé beaucoup d'efforts sur la sensibilisation, tandis qu'il faut aussi penser à l'équipement des infrastructures. Je vais prendre des exemples dans quelques collectivités de la Haute-Guinée. Lorsqu'on a fait l'état des lieux, ces collectivités qui ont des postes de santé et des centres de santé ne sont même pas dotées en poubelles inox, qui sont des éléments pour nous vraiment d'hygiène élémentaire sans lesquels on ne peut pas parler de protection des agents de santé. Donc on est doté en gants, on est doté en éléments qui gèrent, mais ce qui doit rester existe en quantité très très minime.
Merci beaucoup Mahmoud, c'est vraiment très important. Je voudrais vous faire réagir là-dessus, professeur Yazdanpanaz. On a bien, cette épidémie, elle a montré l'état des systèmes de santé de ces trois pays-là, mais qu'est-ce que la communauté internationale va faire aujourd'hui pour aider à la reconstruction des systèmes de santé? C'est important.
Oui, alors je me permets sur le premier point de Mahmoud, ouais. L'approche communautaire, je pense que c'est essentiel. Je pense que on l'a vu avec le VIH, parce que c'est la première fois l'épidémie de VIH/SIDA où on a eu cette approche-là. Et là, si on veut effectivement que les choses s'améliorent, cette approche communautaire, on l'a dit depuis le mois de septembre, est essentielle pour améliorer les choses. On dit qu'il y a plus de 25 000 personnes qui ont été atteintes par l'Ebola, qu'il y a eu 10 000 personnes qui sont décédées, il y a 15 000 personnes qui sont vivantes, c'est des gens qui ont vécu l'Ebola, il faut que ces personnes vraiment interviennent, même s'ils sont stigmatisés malheureusement, pour changer les choses sur le terrain, je pense que c'est très important. Alors pour revenir sur le deuxième point, effectivement, il faut d'une manière générale maintenant, à plus long terme, pour l'Ebola, mais également pour d'autres maladies que l'Ebola, parce qu'il va y avoir d'autres maladies transmissible que l'Ebola. Il faut améliorer l'infrastructure, il faut améliorer la formation. C'est les deux champs d'action.
La formation du personnel soignant.
Oui, la formation et l'information. Mmh. L'information du grand public et l'information et la formation aussi du personnel soignant, c'est extrêmement important. Et je sais que la France, via un certain nombre d'organismes, et même la PHP, hein, au niveau de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, on tente de maintenant mettre en place des formations à plus long terme pour justement autour de l'hygiène, améliorer l'infrastructure. Je sais que par exemple à Monrovia, ils sont en train de penser à un hôpital de fièvre pour que les patients qui ont de la fièvre viennent vers ces hôpitaux-là, parce qu'on sait qu'ils sont transmissibles et pas ailleurs dans le système de soins. Donc ça, effectivement, les Anglais, les Français, les Américains, les pays du Nord et l'OMS sont en train de mettre en place pour aider nos partenaires du CHIT pour lancer ces projets sur la construction des infrastructures et la formation du personnel.
Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention. On a Lansiné qui nous appelle de Bamako, au Mali. Lansiné, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Lansiné.
Bonjour au professeur, bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radiographie. Alors, moi, ma question tourne autour de la durée d'incubation de la maladie à virus Ebola. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer la présence de quelques traces dans le sperme d'un malade guéri après quelques mois au Libéria?
Oui, c'est intéressant ce que vous racontez, professeur Yazdanpanaz. On a bien dit que la période d'incubation, elle était de 2 à 21 jours, mais effectivement, le virus reste dans le sperme plus longtemps que ça.
Mais alors, il faut différencier la durée d'incubation de la présence de virus chez les patients guéris. La durée d'incubation, c'est quand moi, je ne suis pas malade, je rentre en contact avec quelqu'un de malade, j'ai un contact. Je peux devenir malade jusqu'à 21 jours. Au-delà de 21 jours, je peux pas. Ça, c'est quand je suis en contact avec un malade. Une fois que j'ai été en contact, si pendant les 21 jours, je n'ai plus de maladie, je suis plus malade. Après, la personne qui est malade, lui, dans le sang, il y a le virus pendant une dizaine de jours. Dans les urines, pendant un mois, globalement. Dans le sperme, le virus est excrété jusqu'à 100 jours, jusqu'à 3 mois. Donc, du coup, un patient avec Ebola, quand il sort guéri...
Quand même il est guéri. Enfin,
quand il est guéri, parce qu'il n'a plus de virus dans le sang, donc il est guéri, il n'a plus de fièvre, mais il l'a dans le sperme. Comme il l'a dans le sperme, on lui dit d'avoir des relations sexuelles protégées, même si on n'est pas certain que ce virus qui est dans le sperme, il est contagieux. Ça, on ne le sait pas. Mais on sait qu'on
C'est ça, on ne sait pas s'il est en quantité suffisante pour être contagieux.
On ne sait pas si c'est des particules virales, ou est-ce que c'est des particules virales qui sont vivantes. On ne sait pas si c'est quantité suffisante pour transmettre la maladie, etc. Mais dans le doute, effectivement, on dit qu'une personne, ça fait partie des recommandations, une personne qui est guérie de l'Ebola, il faut qu'il se protège sur le plan sexuel pendant au moins trois mois. Voilà.
C'est ça, mais on n'est pas encore, bien sûr, j'imagine qu'il y a des recherches qui sont menées là-dessus
Il y a des recherches là-dessus. L'INSERM, par exemple, en France, fait une étude auprès des patients survivants pour essayer justement de regarder les séquelles, de regarder aussi sur le plan anthropologique leur intégration. Et dans les sujets, il y a justement pendant combien de temps il y a le virus qui est sécrété, est-ce que c'est vivant, est-ce que c'est pas vivant, etc.
Du coup, on a eu plein de questions effectivement sur la sexualité après avoir été guéri d'Ebola. On a Niuma qui nous appelle de Freetown en Sierra Leone. Niuma, bonjour.
Oui, alors bonjour, Priorité Santé, bonjour à la fille.
On vous écoute, Niuma.
Oui, alors j'ai une préoccupation. Ma famille et moi avions été mis en quarantaine pour 21 jours suite au décès d'une femme dont nous partageons les latrines. Elle partageait sa chambre avec son fils de 12 ans. Et que ce fils est resté négatif alors qu'il partageait avec sa mère jusqu'à la mort. Comment expliquer cela si la maladie est aussi contagieuse qu'on le dit? Les tests ont Est-il vraiment sérieux ou alors le garçon porterait-il encore le virus dans son sang?
On va commencer avec cette question-là. J'ai compris que vous aviez plusieurs questions, mais on va commencer avec celle-là, professeur Yazdanpana.
Alors, la première chose, c'est que le virus est transmissible et la transmissibilité dépend du stade de maladie. Ça veut dire que quelqu'un qui a des diarrhées et des vomissements très importantes, probablement, il est très transmissible. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il transmet la maladie à 100% des gens. Hein, mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de diarrhée, beaucoup de vomissements, lui, il n'est pas très transmissible. Donc la transmissibilité varie en fonction du stade de maladie. Et de toutes les façons, même quand on est dans les... Plus la maladie est grave, plus il est transmissible. Moins il est grave, moins il est transmissible.
Et alors, l'autre chose qu'il faut expliquer, c'est que certes, on dit que c'est une maladie transmissible, mais en fait, on peut aussi expliquer que c'est moins transmissible, par exemple, que la tuberculose ou la rougeole.
Voilà, très transmissible. Voilà. C'est très grave, il n'y a pas de traitement, mais heureusement, c'est pas très transmissible. Alors,
Du fait que ça se transmet pas dans l'air, justement.
Voilà, après, on a comme l'échelle des tremblements de terre. On a des échelles, on appelle ça R0, de transmissibilité. Par exemple, la rougeole, c'est 15. C'est-à-dire, une personne qui a la rougeole peut transmettre à 15 personnes. Une personne qui a l'Ebola, quand il est grave, il transmet à 4 patients. Quand il n'est pas grave, un patient, voire un peu moins.
Voire zéro, et ça peut être le cas du petit garçon qui n'a pas été contaminé. Vous aviez d'autres questions, Niuma?
Oui, alors, le gouvernement dit qu'il faut éviter de se serrer les mains et de contact possible. Or, la pénurie de bus, on est serré comme des sardines pour aller à l'université. Est-ce qu'il y a des risques à propos?
Oui, il y a des risques, bien sûr, il y a des risques, surtout si la personne est symptomatique. Si la personne n'a pas de symptômes, s'il n'est pas malade, il n'y a pas de risque. Hein. Mais si la personne est malade déjà et qu'il a des diarrhées, des vomissements et que vous êtes en plus dans un bus, bien sûr, c'est une mode de transmission potentielle de virus et ça fait partie. Mais après, il faut que la population aussi fasse attention. Quand il est symptomatique, il ne faut pas qu'il y ait dans le bus.
Il ne faut pas prendre le bus. Vous aviez une dernière question, je crois, Niuma.
Oui, voilà, justement. Ma dernière question, c'est que sur le campus, on a installé des chlorines pour le lavage des mains et les thermomètres à l'entrée de l'université même, pour les tests des malades. Dites-moi, docteur, quelle est l'efficacité de ces tests? Parce qu'on voit que souvent, les étudiants...
Oui, sur les thermomètres. Oui, non, mais je comprends très bien votre question. Moi, quand j'étais en Guinée-Conakry aussi à l'aéroport, on m'a pris ma température plusieurs fois avant de monter dans l'avion, en sortant de l'avion. Est-ce que c'est efficace? docteur.
Alors, c'est toujours pareil, hein. C'est pas une efficacité de 100%, mais oui, c'est efficace parce que ça, le fait que vous preniez votre température, ça permet malgré tout de détecter si vous êtes symptomatique ou pas. Après, les gens peuvent très bien prendre du paracétamol pour faire baisser la température, hein. Mais bon, malgré tout, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui ont des efficacités. Pas 100%, mais diminuent.
Merci Nyuma. On essaie de prendre très très rapidement Abdallah qui nous appelle de Goma en RDC. Est-ce que vous pouvez poser votre question très rapide parce qu'on arrive à la fin de l'émission? Abdallah. Bon, Abdallah, on l'a perdu, je vais vous dire. Il demandait est-ce qu'on peut retomber malade après avoir été soigné?
A priori, non. Ouais. Il y a une immunité, en tout cas par le même virus, parce qu'il y a 5 types de virus différents d'Ebola, mais là, actuellement, le virus d'Ebola qui est en Afrique de l'Ouest, c'est le même, et a priori, on peut pas. C'est pour ça que c'est important aussi que les patients qui sont guéris puissent nous aider à faire l'approche communautaire, parce que eux, ils sont protégés.
Ils sont protégés, donc c'est important. Un mot de conclusion, on arrive à la fin de cette émission, professeur Iris Dampadar.
Non, je pense que l'épidémie d'Ebola, j'espère, va être finie, mais il faut surtout que ça soit l'occasion d'améliorer, d'une manière générale, les infrastructures, la formation, l'hygiène hospitalière dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays d'Afrique en général.
Et vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup, hein, professeur Iris Dampadar, d'être intervenu. Je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris. Demain, on parlera de la prise en charge du cancer. Un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et bien sûr, comme toujours, les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.